You talking to me?
Playtime's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
Le 10 octobre 1963, le journaliste français Jacques Salbert faisait le point sur le message d'espoir prononcé par Martin Luther King 3 mois plus tôt.
Allô Paris, ici New York. Le nord de Central Park longe Harlem, le quartier noir. Les terrains de jeu sont ouverts à tous. Les allées aussi. Ici, nous ne sommes pas dans le sud. Noir et blanc se côtoient. Et ces images nous ramènent au problème numéro 1 des États-Unis qui, depuis plusieurs mois, reste le problème de la ségrégation. Ou si vous préférez, le problème de la déségrégation ou encore le problème de l'intégration.
Aujourd'hui, on estime à 13% la proportion d'Afro-Américains vivant aux États-Unis. L'esclavage a été aboli en 1865. Les droits civiques ont été accordés à la population noire 100 ans plus tard. Et pourtant, les récents drames de Ferguson, de Cleveland montrent qu'hélas, les fantômes de la ségrégation sont toujours au cœur des enjeux américains. Si l'Amérique m'était comptée, la ségrégation. Comment le sud des États-Unis a instauré le racisme légal?
Hi guys.
Et pour commencer cette émission, écoutons un homme blanc qui a marché sur Washington pour dénoncer les inégalités subies par la population noire. En 1964, il nous expliquait en chanson que les temps étaient en train de changer. Et 50 ans plus tard, nous, on a toujours envie de le croire. Voici Bob Dylan, The Times Are Changing.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Kenneth et Mary Clark, un couple de psychologues américains, publient en 1947 les résultats d'une expérience toute simple.
Des poupées noires et des poupées blanches sont présentées à des enfants âgés de 3 à 7 ans. Attention, des enfants noirs.
Les mômes doivent ensuite répondre à des questions.
Avec quelle poupée voudrais-tu jouer ?
quelle poupée est gentille, quelle poupée est méchante.
Quelle poupée est belle, quelle poupée est moche.
Et pour être sûr du jugement des enfants, quelle poupée est blanche, quelle poupée est noire.
Enfin, la question posée au petit enfant noir est simple. Quelle poupée te ressemble?
Résultat, en gros, tous les enfants différencient la poupée blanche de la poupée noire.
Mais les trois quarts des enfants veulent jouer avec la poupée blanche, belle et gentille.
Cette recherche a été utilisée en 1954 par la Cour suprême des États-Unis.
L'égalité prônée par la Constitution est bafouée puisque les enfants noirs sont élevés dans un sentiment d'infériorité.
Ainsi, aujourd'hui, si l'Amérique m'était comptée, on aurait presque envie de ressortir ces poupées pour savoir où l'on en est de la ségrégation aux États-Unis.
L'historien Pape Diaye a écrit de nombreux et excellents ouvrages sur la condition noire. Il revient pour nous sur les origines de la ségrégation raciale aux États-Unis. Nous sommes à la fin de la guerre de sécession. L'esclavage vient d'être aboli et c'est la fin d'une glorieuse époque pour les sudistes. Une époque emportée par le vent.
Je crains qu'il ne soit difficile de gagner une guerre avec des mots.
Insinuez-vous, Monsieur Butler, que les Yankees seront vainqueurs?
Non, je ne veux rien insinuer. Je me rends compte malheureusement que les Yankees sont bien mieux équipés que nous. Ils possèdent des fabriques, des charbonnages, des chantiers navals et une flotte pour nous bloquer dans nos ports et nous réduire à la famine. Tout ce que nous avons, c'est du coton, des esclaves et de l'arrogance.
Vous êtes un Yankee, c'est la vraie, j'ai écouté le propos de traître.
Pam Diaye, bonjour.
Bonjour.
1865, la guerre de sécession est terminée, l'esclavage est aboli à la fin de l'année, c'est formidable, tout va bien. On peut dire que dans les populations noires de tous les États-Unis, particulièrement du sud des États-Unis, c'est la fête.
C'est la fête, à coup sûr, le sentiment de la liberté, comme dans tous les pays d'ailleurs où les abolitions ont été proclamées, par exemple dans les Caraïbes françaises en 1848, un sentiment de liberté qui permet par exemple aux anciens esclaves de voyager, de retrouver un époux, des enfants perdus, éloignés de vue depuis longtemps.
D'autant que la population noire est majoritaire dans certains coins du sud des États-Unis, ce qui permet à quelques noirs d'arriver à des postes à responsabilité, il y a des élections et certaines sont majeures même.
Voilà, notamment en Caroline du Sud, dans le Mississippi et l'Alabama, où la population noire est majoritaire, les gouverneurs sont noirs, il y a deux sénateurs qui sont envoyés à Washington qui sont également afro-américains. Il y a une sorte de printemps démocratique dans le sud des États-Unis qui s'ouvre à ce moment-là jusqu'à la fin des années 70.
Et d'ailleurs, on peut contextualiser ça de manière beaucoup plus large parce que le mouvement ouvrier est en train de se créer à l'international. D'ailleurs, c'est l'internationale ouvrière. Et ben, on se dit que la lutte des classes est peut-être plus importante que la lutte des races. Et donc, ben, une union des Noirs et des Blancs, des ouvriers, peut très bien se faire aux États-Unis. On est aussi dans ce sentiment-là.
Oui, dans le nord des États-Unis, des perspectives syndicales d'union entre Noirs et Blancs s'esquissent dans les années 1870 et 1880 avec des syndicats fondés sur un métier, sur une appartenance de classe. Mais le patronat américain, la grande industrie, s'est joué des différences à la fois raciales et ethniques pour affaiblir le monde ouvrier. De telle sorte que ces unions syndicales-là ne durent pas très longtemps. Les frontières raciales sont bien présentes et elles vont même être renforcées à la fin du 19e siècle.
Le patronat, évidemment, qui est blanc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et oui, on dresse un tableau qui est plutôt joyeux de la fin de l'esclavage. En fait, il faut tout de suite nuancer la chose, c'est évident. Le symbole, c'est peut-être 1866, la création du Ku Klux Klan.
Oui, c'est-à-dire la création de groupes, le Ku Klux Klan parmi d'autres d'ailleurs, ils sont très nombreux à se créer à ce moment-là, de suprémacistes blancs qui n'admettent pas la fin de l'esclavage et qui veulent à tout le moins terroriser la population des affranchis, des anciens esclaves, en l'empêchant en particulier d'exercer les droits civiques, d'aller voter. Donc on terrorise la population, on brûle déjà des croix enflammées devant les maisons de figures afro-américaines en Géorgie ou en Caroline du Sud. Il y a déjà une politique, qui est une politique de terreur qui se met en place.
1925, c'est l'apogée tout court. Le Klan a 6 millions de membres, ressources 75 millions de dollars par an. 40 000 hommes du Klan défilent à Washington. 1928, scandale, catastrophe. Un haut dignitaire du Klan est convaincu d'escroquerie, de vol, enlèvement, violence, viol et meurtre. C'est la dégringolade. Peu à peu, le clan remonte la pente et en 1940, s'acoquine volontiers avec le Bund germano-américain, les nazis d'outre-Atlantique.
D'ailleurs, ce qui m'a intéressé en lisant enfin vos écrits, Pape Ndiaye, c'est qu'il y a plus de morts après l'abolition de l'esclavage qu'avant. En fait, on ne tue pas tellement du temps de l'esclavage, c'est plutôt après.
Les lynchages qui vont faire l'ordinaire du sud des États-Unis et d'autres régions du Midwest, surtout à partir des années 1890 jusqu'aux années 60, on compte à peu près entre 5 et 6 000 lynchages à ce moment-là, étaient très rares avant la guerre de sécession. Les punitions corporelles étaient monnaie courante, mais on allait rarement jusqu'à tuer les esclaves. Or, c'est tout autre chose qui se passe ensuite, parce que la frontière raciale n'est plus garantie par le statut de l'esclave. Il faut donc la faire respecter d'une autre manière.
Le Nord avait libéré les esclaves, mais pour le vieux Sud, ils étaient toujours des nègres, des sous-hommes à traquer et à pendre pour préserver le pouvoir blanc. C'est l'âge de la ségrégation, une période sombre qui durera 90 ans, durant laquelle les Noirs du Sud vivront un enfer légal de tous les jours, avec l'assentiment hypocrite du Nord. Magasins interdits, restaurants interdits, droit de vote interdit, blancs et noirs ne devaient se mélanger à aucun prix, et dès l'enfance, chacun grandissait dans la peur de l'autre. Les blancs vivaient dans la peur panique du métissage, les noirs dans la terreur de l'arbitraire.
D'ailleurs, le lynchage, on a des photos hein, encore voilà, aujourd'hui, on les voit qui circulent. Il y a un côté fête de village un peu monstrueuse. Tout le monde sort.
Ils peuvent être annoncés à l'avance par la presse. Demain à 16h, rendez-vous à tel endroit. Il y a des photographes, il y a des cartes postales de personnes lynchées qui sont envoyées. On n'est pas du tout dans la clandestinité, mais dans un monde gris entre une justice officielle et une justice purement officieuse. Le shérif peut participer au lynchage, les forces de police locales, tout le monde est au courant et ça se transforme en cérémonie. Il arrive même que les écoles reçoivent un jour de congé pour que les enfants puissent assister au lynchage.
C'est terrifiant. L'esclavage est aboli, c'est le 13e amendement, il n'y a pas de souci. Et pourtant, on se met en place autre chose qu'on appelle la ségrégation. C'est quoi, Pape Ndiaye, la ségrégation?
C'est la séparation des Noirs et des Blancs, des gens dits de couleur, c'est le terme de l'époque, dans tous les lieux publics dans le sud des États-Unis. Donc c'est d'abord les transports, mais aussi les écoles, mais aussi les hôpitaux, les lieux publics, les stades, les cimetières, les ascenseurs, tout ce que l'on peut imaginer comme espace public se trouve séparé avec des lieux réservés aux gens de couleur et des lieux réservés aux blancs.
Et concrètement, c'est-à-dire on est dans la ville, on veut boire une fontaine, il y a deux fontaines.
Il y a deux fontaines, avec des variations selon les états, de telle sorte que les voyageurs doivent faire très attention lorsqu'ils passent par exemple du Tennessee à l'Alabama, parce que les règles peuvent changer de manière très subtile. Il y a donc des petites brochures qui expliquent aux voyageurs afro-américains quoi faire à tel endroit, parce que, et bien entendu, une erreur peut avoir des conséquences très graves pour eux-mêmes, parfois pour leur vie.
Et la ségrégation, d'ailleurs, est poussée extrêmement loin quand on parle de l'hôpital, le monde de l'hôpital. A priori, on est dans l'urgence. En fait, non, jusqu'au sang qui n'est pas mélangé. Enfin, c'est fou.
On ne mélange pas les sangs. Jusqu'en 1942, la Croix-Rouge américaine sépare les sangs dits blancs des sangs noirs, ce qui peut d'ailleurs avoir des conséquences sur la vie des gens. Lorsqu'une transfusion est urgente, eh bien, celle-là ne se fait pas si le bon sang n'est pas disponible, indépendamment du rhésus. On connaît le cas de la grande chanteuse de blues Bessie Smith, qui a un grave accident d'automobile près de Clarksdale, dans le Mississippi, à la fin des années 30. Et il semble bien qu'elle est morte précisément parce qu'il n'y avait pas de sang et d'hôpital qui voulait l'accueillir, alors même qu'elle était en danger de mort.
Qu'on comprenne bien, la ségrégation, ce n'est pas simplement une pratique, c'est la loi. C'est la loi. Alors, on appelle ça les Jim Crow.
C'est quoi exactement Jim Crow ?
C'est une référence à un personnage burlesque qui représente les Noirs, très populaire dans les théâtres, ce qu'on appelle les minstrel shows au 19e siècle. Et par là, un Jim Crow fait référence à un homme noir aux États-Unis. Donc les lois Jim Crow sont les lois de ségrégation. À quoi il faut ajouter, à partir de la fin du 19e siècle, le fait que les Afro-Américains perdent le droit de vote, ce qui, bien entendu, parachève en quelque sorte leur exclusion civique et politique.
Les Noirs d'Amérique étaient toujours des nègres, et pour la plupart d'entre eux, l'abolition de l'esclavage n'avait été qu'une illusion. Dans le sud de Jim Crow, l'exploitation avait simplement changé de forme. Sans argent, les familles restaient enchaînées aux maîtres, et la justice raciste jetait dans les chain gangs tous ceux qui refusaient de se conformer.
Comment ça se passe, Pam Diaye, pour les Noirs ? Il y a quand même des mouvements de résistance, alors qu'ils doivent prendre plusieurs formes.
Oui, des mouvements qui, dès la fin de l'esclavage, s'organisent, notamment pour garantir le droit de vote, lutter contre la ségrégation. Jamais les Noirs du sud des États-Unis ne se sont accommodés de leur situation. Ils ont toujours trouvé des moyens de résister, y compris face à un rapport de force qui leur était très, très défavorable. Ce sont des organisations locales qui, par exemple, accompagnent les électeurs qui vont essayer d'aller voter dans les années 1880 ou 90. On y va avec un fusil lorsque l'on va voter à cette époque-là. Et puis, ça prend une forme plus institutionnelle avec la création de la NAACP, la grande organisation de lutte pour les droits civiques, 1909, et qui va, à travers le XXe siècle, essayer de promouvoir la situation des Noirs américains, surtout ceux du Sud, de lutter contre les lynchages, bref, de faire de telle sorte que les Noirs ne soient pas des citoyens de seconde zone.
Surtout ceux du Sud, effectivement, parce que dans le Nord, c'est différent, il n'y a pas la ségrégation aussi poussée. Je pense, parce que je l'ai lu dans vos écrits, Pam Diaye, une chanson « Strange Fruit » d'Abel Meeropol. C'est un New-Yorkais, enfin la chanson a été reprise par Billie Holiday. C'est un New-Yorkais qui condamne le lynchage dans le Sud. Mais en fait, ça ne se passe pas si bien que ça pour les Noirs du Nord.
Ça ne se passe pas si bien que ça parce que ils sont soumis à des formes de discrimination très fortes. D'abord parce que la ségrégation existe de fait dans l'espace public des villes avec la création de grands ghettos comme celui de Harlem ou celui de Chicago à partir des années 1920. Et puis parce que les Noirs qui sont dans le Nord eh bien font l'expérience des salaires faibles, des emplois peu garantis, du chômage, de tout ce qui fait l'ordinaire du sous-prolétariat urbain. En dépit de cela, les Noirs du Sud fuient en masse en direction du Nord parce que la situation dans le Sud est telle que, même si le Nord n'est pas un paradis, il est tout de même bien plus favorable, d'où la grande migration qui s'organise à partir des années 1910, des Noirs du Sud vers le Nord des États-Unis, vers New York, vers Chicago, vers Philadelphie, Detroit, etc.
La Seconde Guerre mondiale aussi est intéressante parce que la Seconde Guerre mondiale va avoir un vrai effet sur la relation qu'ont les Américains à la ségrégation. C'est vrai que c'est compliqué d'aller combattre le nazisme et les théories raciales et de l'appliquer à la maison.
Voilà, cela met la ségrégation, les partisans de la suprématie blanche dans le Sud sur la défensive. Comment défendre des thèses racistes qui ont quelques similitudes à un degré moindre avec ce qui est fait en Europe, promu en Europe par les régimes fascistes nazis ou même par le régime japonais en Chine. Et donc là, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la ségrégation ne va pas reculer en pratique, mais elle va être désormais sur la défensive, avec un argument qui était l'argument de la race, de l'existence des races, qui va s'effondrer avec l'effondrement du nazisme. Et dès lors, l'après-Seconde Guerre mondiale change quelque chose progressivement. Les anciens soldats qui retournent en Amérique en 1945 ne sont plus disposés, comme auparavant, à s'asseoir à l'arrière des bus.
Don't let nobody turn you around. Turn you round, turn you round. Don't let nobody turn you round. Keep on to freedom land.
C'est le blues des manifestants noirs de Birmingham. Les paroles en sont très simples. Personne ne nous fera rebrousser chemin sur le chemin de la liberté.
Keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land.
Après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, ça change radicalement. 54, c'est la Cour suprême qui agit et qui dit pas de ségrégation à l'école.
C'est quoi? C'est une avancée nécessaire parce que les consciences ont évolué?
C'est sans doute la décision de la Cour suprême la plus importante dans l'histoire des États-Unis. Les historiens sont à peu près d'accord là-dessus, je pense, sans pour autant que les effets de cette décision se marquent spécialement, puisque dans le Sud, la décision de la Cour suprême de déségréguer les écoles publiques n'est pas appliquée. Il faut envoyer la troupe, les soldats, il faut la force, comme en 1957, par exemple, à Little Rock, dans l'Arkansas, pour que les écoles soient effectivement déségrégées. Il y a une distance énorme entre la loi et puis l'application de la loi dans le sud des États-Unis.
Birmingham est une ville du sud. Il y fait chaud. Cependant, ces grilles interdisent l'entrée de l'une des piscines de la ville. Les Blancs, en effet, préfèrent se passer de baignade plutôt que d'avoir y accepté un jour des Noirs.
Oui, et là, c'est une décision qui vient de la Cour suprême, donc ce sont des magistrats bien installés, mais il y a le concret. On pense tout de suite, en 55, à Rosa Parks, qui refuse de se lever dans le bus.
Elle refuse de se lever dans le bus le 2 décembre 1955. Rosa Parks est une militante, et donc elle voulait être arrêtée précisément pour engager une épreuve de force juridique. C'était la tactique de la NAACP qui avait bien marché en 1954, organiser une provocation dans un bus pour ensuite lancer une procédure judiciaire. C'est ce qui se passe. Mais la grande différence avec 1954 et les actions précédentes de la NAACP, c'est que la population noire locale, celle de Montgomery, se mobilise et organise le boycott de la compagnie de bus sous l'égide d'un jeune pasteur qui est d'ailleurs tout à fait inconnu à ce moment-là. Il n'a que 26 ans, Martin Luther King, bien sûr.
So this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, right down in Georgia and Mississippi and Alabama, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to live together as brothers. I have a dream this afternoon that one day, one day little white children and little Negro children will be able to join hands as brothers and sisters. I have a dream this afternoon that one day.
C'est en fait la construction d'un mouvement noir qui a permis de pousser à la fin de la ségrégation. Vous pensez-vous que ça vient de l'intérieur du mouvement noir? Parce que quand on regarde un peu l'histoire des États-Unis, on pourrait dire aussi que Kennedy, quand il mène cette campagne, on est dans un contexte de guerre froide et les États-Unis ne peuvent pas non plus se permettre d'être un pays comme ça qui accepte des choses qui sont inacceptables.
À coup sûr, d'ailleurs, c'est un des grands arguments de propagande de l'Union soviétique, de dire aux Américains, vous nous donnez des leçons de démocratie et de liberté, mais regardez ce qui se passe chez vous dans le sud de votre pays. Il n'en demeure pas moins que le mouvement pour les droits civiques, c'est-à-dire cette mobilisation à la base de la population afro-américaine, surtout dans le sud des États-Unis, a été absolument décisif pour mettre fin à la ségrégation. John Kennedy, auquel vous faisiez allusion, n'était pas partisan de la ségrégation, certes, mais il n'était pas du tout partisan d'y mettre fin. Son propre parti, d'ailleurs, le Parti démocrate, était particulièrement fort dans le sud des États-Unis, précisément appuyé sur le monde suprémaciste blanc. Et donc lui-même, d'un point de vue politique, avait assez peu d'intérêt à toucher à la ségrégation, comme son prédécesseur Franklin Roosevelt, la grande figure de la vie politique américaine au XXe siècle, dont les réformes avaient été si importantes et qui pourtant n'avait absolument pas touché à la ségrégation. Il faut donc faire pression sur Kennedy et son frère Robert, le ministre de la Justice dans les années 60. Et cette pression, elle vient bien du monde afro-américain lui-même.
Oui, et le Parti démocrate était aussi très frileux. Un siècle plus tôt, en 1865, c'est pas lui qui a poussé à l'abolition de l'esclavage, mais le Parti républicain. C'est l'inverse dans nos codes aujourd'hui.
Exactement, puisque oui. Aujourd'hui, le Parti démocrate a une forte base sociale et politique du côté des minorités et du côté du monde noir. Mais pendant une bonne partie de son histoire, le Parti démocrate a été aussi le parti des partisans de la ségrégation, du maintien de structures politiques contrôlant la population noire. Et c'est le Parti républicain, le Parti de Lincoln, qui a été fondé précisément pour l'abolition de l'esclavage, qui avait les faveurs du monde noir, ceci jusque dans les années 30, en tout cas dans le nord des États-Unis, puisque dans le sud, les Noirs ne votaient pas de toute façon.
Dans les années 1960, c'est bien les démocrates qui mettent fin à la ségrégation. Ok,
C'est écrit sur du papier, mais dans la réalité, on passe à autre chose. On passe à la discrimination.
Oui, là, il n'y a plus de loi de ségrégation depuis la juillet 1964, cette grande loi qui interdit toute forme de ségrégation dans l'espace public aux États-Unis. Les Noirs du Sud retrouvent le droit de vote en juillet 1965. Les deux lois vont ensemble, en quelque sorte, mais cela ne change pas de façon radicale la situation dans le sud des États-Unis. Il est toujours aussi difficile d'aller voter. Par exemple, s'il y a peu de bureaux de vote et qu'il faut attendre 3 heures ou 4 heures avant de pouvoir voter, évidemment, la participation électorale s'en ressentira d'autant. Et puis, du côté de la ségrégation, eh bien, on a observé des formes par lesquelles les élites locales ont reconstitué un entre-soi, par exemple par le développement des écoles privées avec des frais d'entrée qui, dans les faits, excluent la population noire. Ring, ring,
goes the bell. Lorsque, fort de la décision de la Cour suprême, les premiers étudiants noirs voulurent s'inscrire dans les établissements jusque-là réservés aux blancs, c'est avec des pierres et des insultes qu'ils furent accueillis. Le racisme était là, palpable, odieux, sur les visages et dans les mots. Il était là même chez ces jeunes qui, comme tous les teenagers des années 50, devaient écouter du rock'n'roll et qui pourtant crachaient leur haine sur Elizabeth Ackford simplement parce qu'elle était noire. Signe que, malgré sa puissance intégratrice, le rock'n'roll n'était finalement que cela, une musique. Et que, à elle seule, une musique ne pouvait renverser 300 ans de préjugés.
Pour terminer, Pam Dia, il y a une question que je me posais. Je me dis, on parle de ségrégation aux États-Unis et d'apartheid en Afrique du Sud. C'est quoi la différence entre les deux ?
Les deux ont des similitudes évidentes. D'ailleurs, le terme d'apartheid en langue africaine signifie séparation, signifie bien ségrégation. La différence, est l'apartheid en Afrique du Sud concernait l'ensemble du pays sans la possibilité de s'évader vers une autre région de l'Afrique du Sud, avec un appareil policier et militaire tout entier au service de l'apartheid. Donc il y a une dimension totalitaire. Un Martin Luther King en Afrique du Sud aurait subi le sort de Mandela, il aurait été emprisonné à vie, il aurait peut-être même été arrêté et condamné à mort comme tant de militants sud-africains.
Voilà, donc les États-Unis, c'est pas un État totalitaire, évidemment, c'est pas de l'apartheid. Mais si la ségrégation est un peu plus pernicieuse, ça veut dire qu'elle peut encore perdurer.
Exactement, il y a des formes par lesquelles, être noir et être blanc aux États-Unis, ça n'est toujours pas la même chose. Et un certain nombre d'événements récents, comme ceux de Ferguson, par exemple, le montrent amplement, une certaine amertume, le fait que la situation se dégrade pour les Noirs les plus pauvres depuis une vingtaine d'années. Tout cela, c'est bien la réalité des États-Unis d'aujourd'hui.
Une histoire qui n'est pas finie. Merci beaucoup, Pam Dia.
Merci. Seven trees. Barren, strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia. Clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
is a fruit. For the crows to pluck. For the rain to gather. For the wind to suck. For the sun to rot. For the leaves to drop.
Strange Fruit, une chanson écrite par Abel Meeropol en 1937, interprétée ici 30 ans plus tard par la chanteuse militante pour les droits civiques, Nina Simone. Strange Fruit ou étrange fruit, ces étranges fruits qu'étaient les noirs lynchés, pendus aux arbres. C'est le lynchage de Thomas Chip et Abraham Smith qui a inspiré à Abel Meeropol l'écriture de la chanson Strange Fruit. Ces deux jeunes Afro-Américains avaient été accusés d'avoir volé un ouvrier blanc et violé sa femme. Ils ont été pendus le lendemain. C'était le 7 août 1930 à Marion, dans l'Indiana. Et des histoires sordides comme celle de Thomas Chip et Abraham Smith, on en compte des centaines dans les États du Sud ségrégationnistes. Mais en Alabama, en 1931, il est un fait divers qui a marqué les esprits plus que les autres. C'est l'affaire des Scottsboro Boys.
En Alabama, on a dit trop tôt que les choses s'arrangeaient.
Franck Véron, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, revenons au 25 mars 1931. Nous sommes en Alabama, qui est un état du sud des États-Unis. Et ce 25 mars 1931, un train de marchandises circule non loin d'une petite ville de l'Alabama, qui est Scottsboro. C'est un train de marchandises, c'est pas un train de voyageurs, c'est important. Et dans ce train, il y a des vagabonds, voilà, qui sont là de manière illégale, hein. Ils sont montés dans le train. Parmi eux, il y a 9 Afro-Américains, 9 garçons, que des garçons. Ils ont pris ce train pour trouver du travail un petit peu ailleurs, parce que c'est la misère chez eux, mais voilà, ils ont pris ce train pour aller tenter l'aventure un peu plus loin. Que se passe-t-il dans ce train, Franck Véron, du 25 mars 1931 en Alabama ?
Alors, que se passe-t-il ? En vérité, c'est très très dur de le savoir. En tout cas, la conséquence de ce qui s'est éventuellement passé, c'est que il y a sans doute eu en fait une bagarre à l'intérieur ou dans le convoi, dont les protagonistes ne sont pas connus. Mais en tout cas, tout ça débouche sur l'arrestation de ces 9 jeunes noirs et aussi de quelques blancs avec lesquels éventuellement ils s'étaient battus. Seuls ces 9 jeunes noirs, très jeunes, hein, le plus jeune a tout juste 13 ans, le plus âgé 19 ans.
Des adolescents en fait. Hein.
Des adolescents. De pauvres adolescents, vous avez expliqué qu'on était en Alabama, mais on est aussi au début des années 30, en 31, dans une période de la période de grande dépression, de crise économique. Ce sont des jeunes noirs très pauvres, à la recherche sans doute de travail. Ils sont donc arrêtés et accusés d'avoir violé 2 femmes blanches qui, elles aussi, voyageaient à bord de ce train. Seule preuve contre eux, les témoignages de ces 2 jeunes femmes. L'histoire montrera ensuite que ces témoignages ont été très largement sollicités par la police, imposés par les autorités policières locales. Et l'histoire montrera surtout que ces 9 jeunes noirs étaient innocents.
Évidemment, innocents, et on va y revenir tout à l'heure. A priori, Franck Véron, vous et moi, on n'aurait pas dû parler de cette affaire ici, à ce micro, aujourd'hui. Parce que ils vont être jugés assez rapidement, dans les 15 jours, condamnés à mort. Mais c'était assez banal, finalement, dans le sud des États-Unis, ce genre d'affaires. On va expliquer pourquoi elle est montée en épingle ensuite, mais a priori, c'était pas inhabituel, les 9 Afro-Américains condamnés à mort dans la foulée de cette affaire de train
non,
en Alabama.
9 jeunes noirs jugés très rapidement dans des conditions de grande urgence, sous la pression d'une foule raciste hostile présente devant le tribunal. Ça, effectivement, c'est peut-être pas banal, mais en tout cas, c'est pas complètement inhabituel. Et effectivement, ce qui est très intéressant dans l'affaire de Scottsboro, c'est que cette histoire dont on pouvait ou dont on aurait dû imaginer la conclusion logique, c'est-à-dire la condamnation à mort, puis l'exécution très très rapide, qui était d'ailleurs prévue pour juillet 31 de ces jeunes garçons, en fait, l'histoire va absolument pas se passer comme ça, pour tout un tas de raisons, effectivement, qui sont passionnantes à regarder de près.
Eh ben, on va en regarder une tout de suite, c'est qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez précisé, le début des années 30, il y a un contexte dans cette affaire de Scottsboro, et notamment, il y a le souci, on va dire, du Parti communiste américain à cette époque, d'essayer de sensibiliser des populations prolétaires blanches et noires d'une cause commune, d'une cause ouvrière, et il y a, pendant ce procès à Scottsboro, des observateurs qui sont là, et qui s'aperçoivent, peut-être à la fois, alors, c'est une opportunité pour sensibiliser la population noire à leur cause, mais aussi ils sont dégoûtés par ce système d'exploitation et de ségrégation, et du coup ils vont sensibiliser à la fois l'État, puis le pays, à cette affaire totalement injuste et cruelle d'ailleurs.
L'aspect très important de l'affaire, c'est effectivement la présence en Alabama, notamment à Scottsboro, de militants non seulement du Parti communiste américain, de journalistes, de journaux locaux dépendant du Parti communiste américain, mais aussi de membres d'une organisation qui va être très importante dans cette affaire, qui s'appelle l'ILD, l'International Labor Defense, qui est l'équivalent américain du Secours Rouge, de la section française du Secours Rouge, et qui est la section américaine locale du Secours Rouge international. C'est une organisation qui a été créée en 1925 aux États-Unis. Elle existe à l'échelle internationale, le Secours Rouge existe à l'échelle internationale depuis 1922. Et c'est une organisation qui a déjà une expérience de la mobilisation en défense d'accusés. Elle est intervenue notamment dans l'affaire Sacco et Vanzetti, qu'on connaît beaucoup plus. En tout cas, l'ILD a une expérience de ce type de mobilisation. Et la chance de ces 9 jeunes condamnés, c'est effectivement d'avoir dans l'audience de leur premier procès, donc pour rappeler les dates, parce que tout ça se fait dans une urgence extrême, ils sont arrêtés fin mars 31, les procès se déroulent en une dizaine de jours, et ils sont condamnés la première semaine du mois d'avril.
Le 10 avril
31. Voilà. Mais leur chance, effectivement, est d'avoir, parmi les témoins de leur procès, très minoritaire, parce que encore une fois, la foule qui entoure le tribunal et qui est présente dans le tribunal est très, très hostile, et appelle même à une forme de lynchage, pour dire les choses comme elles sont. Toujours est-il que ces témoins vont très vite faire connaître l'affaire. Très vite, une première manifestation est organisée à Harlem, par le biais notamment de l'ILD. Des réunions sont organisées à Chattanooga, qui est une ville plus grande, et à Birmingham, qui sont deux villes plus grandes du sud des États-Unis, où il y a une présence de militants communistes, j'allais dire, plus importante, mais tout ça est très relatif, parce que ces militants sont vraiment très très peu nombreux. Donc très vite, en fait, le fait de faire connaître cette affaire va permettre, dans un premier temps, d'obtenir le report de l'exécution prévue en juillet.
Les Noirs américains sont avant tout américains. Ils sont comme les Blancs, ils sont républicains ou démocrates, mais ils sont avant tout américains. L'Alabama, ce n'est pas toute l'Amérique.
Et là, on va rentrer dans une bataille juridique, on va dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un autre procès, puis un troisième procès. Et alors, aujourd'hui, on a un peu oublié, en France et en Europe, cette affaire Scottsboro. Mais aux États-Unis, Franck Véron, c'est une affaire essentielle. C'est une étape majeure dans la fin de la ségrégation aux États-Unis, notamment parce que la Cour suprême des États-Unis a pris 2 décisions dans les mois et dans les années qui suivent, 2 décisions primordiales et à l'époque inédites dans l'histoire des États-Unis. La première décision, c'est novembre 1932, donc quelques mois après le premier procès. Que dit la Cour suprême, Franck Véron?
Alors effectivement, le combat est donc d'une part un combat politique, de mobilisation politique, et par ailleurs un combat sur le terrain de la judiciaire. Première décision, la Cour suprême en novembre 32 casse une première fois le jugement de 1931 en considérant que les accusés n'ont pas bénéficié de conditions normales au moment de leur procès, notamment n'ont pas pu bénéficier d'une véritable défense. Alors là, on n'entre pas ici dans les détails de cette affaire qui, comme vous l'avez dit, est connue aux États-Unis. et qui est aussi étudié par les historiens aux États-Unis. Plusieurs ouvrages sont revenus régulièrement sur cette affaire dont on connaît maintenant vraiment tous les détails. Il n'empêche qu'effectivement, dans l'histoire longue des mobilisations en défense des populations noires aux États-Unis, cette première décision, pardon, est quand même importante, notamment compte tenu de tout le contexte que j'ai décrit, de cette justice plus qu'expéditive qui avait cours dans les États du sud des États-Unis à ce moment-là.
Bah, c'est un premier choc parce que ça reste 9 noirs. Vous voyez, à l'époque, c'est qu'on se dit, mais comment ça, ils n'ont pas de procès équitable, on s'en fout. Enfin, je résume, c'est un vrai choc. Il faut comprendre que dans le sud des États-Unis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que raconte la Cour suprême? C'est pas très grave, après tout. En fait, non, la Cour suprême dit, non, vous n'avez pas le droit.
Oui, c'est un vrai choc et puis une vraie surprise, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, pour ces jeunes gars, pour certains illettrés, etc., qui au départ n'avaient aucun soutien, viennent de familles pauvres, etc. Effectivement, c'est une décision vraiment, pour le coup, importante. Cela dit, elle ne va pas les sauver immédiatement parce que ce qu'entraîne cette première décision, c'est une reprise d'autres procès. Et l'histoire judiciaire de ces 9 jeunes garçons, 8 en fait, parce que lors du premier procès, j'aurais pu le préciser.
Le plus jeune a été pas gracié, mais...
Non, c'est assez terrible. D'ailleurs, ça en dit long aussi sur l'attitude de la Cour. Sur les 9, 8 sont condamnés à mort. Et le 9e, le plus jeune, qui a à peine 13 ans, donc l'est pas. Et sur les jurés, il manquait une voix pour le condamner à mort.
Donc il est quand même condamné à la perpétuité, hein,
oui,
à 13 ans.
Oui. Enfin, au départ, tous sont condamnés, effectivement. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que les condamnés de 31 vont de nouveau être condamnés à mort, alors même que l'une des accusatrices de 31, l'une des deux femmes qui les accusaient, revient dès 1932, mais surtout en 1933, sur ses déclarations, et intervient lors des procès pour dire que non, elle n'a pas été violée par ces hommes.
Ça, évidemment, c'est très important, Franck Véron, parce que ces 9 personnes ont fait toutes plusieurs années de prison, parfois jusqu'à 10 ans de prison. Mais en effet, Ruby Bates, qui était une des femmes blanches qui avait accusé ces 9 noirs d'avoir été violées, revient très vite sur cette déclaration. Elle dit non, en fait, j'ai menti sous pression sociale, j'ai pas été violée. Et elle le dit, et c'est pas grave, finalement, la justice américaine, enfin, la justice de l'État d'Alabama poursuit sa route violente et condamne une deuxième fois ces 9 afro-américains à la prison. Alors, l'affaire Scottsboro, Franck Véron, ce sont les années 30. Mais en parallèle, en écho à cette affaire, à la fin des années 1990, on a fait une découverte extraordinaire. Dans la bibliothèque de Joseph North, qui est un ancien communiste, rédacteur de journaux communistes aux États-Unis, il est mort et on a récupéré sa bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, on a fait une découverte incroyable. Qu'est-ce que c'est, Franck Véron, cette découverte ?
Alors effectivement, les collègues archivistes new-yorkais en l'occurrence, qui s'occupent du don de la bibliothèque de Joe North, découvrent parmi ses livres la maquette d'un ouvrage, d'un ensemble de gravures noir et blanc, une centaine de gravures, illustrations noir et blanc d'un côté, textes en regard, de courts textes dans des cartouches, un ensemble de linogravures très belles, signé de 2 auteurs, un ouvrage maquetté, et il s'agit en fait d'un recueil. On a beaucoup de mal à qualifier la chose en fait, puisqu'elle n'a pas été publiée. Ça, c'est un élément important.
Enfin, elle est publiée désormais.
Oui.
Notamment en tout cas, aux éditions de l'Échappée, on peut voir maintenant ce document somptueux. D'ailleurs, ces gravures consacrées à l'affaire Scottsboro, mais pas que, parce que le document est en 3 temps. Il y a un premier temps qui raconte finalement l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, hein, voilà, de l'immigration forcée des populations africaines en Amérique par l'esclavage. Puis un deuxième temps qui raconte l'affaire de Scottsboro. Et un troisième temps où on est dans une union des populations blanches et noires en disant « Unissons-nous, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il y a des riches, il y a des pauvres. Unissons-nous contre, finalement, la population riche qui nous manipule les uns les autres. »
Oui, c'est une des forces de ce recueil de gravures. Lorsque les collègues le découvrent, je comprends assez bien leur réaction devant l'objet, parce que ce qui est frappant quand on le voit d'abord, c'est la qualité des gravures.
Qui sont
vraiment saisissantes aussi, qui impressionnent. Et puis, effectivement, la cohérence idéologique ou politique de l'ensemble du texte, effectivement, cette manière de situer l'affaire de Scottsboro dans un contexte plus large, de dépasser aussi les questions posées par Scottsboro, parce puisque les péripéties judiciaires dont on a parlé sont mises en image dans le récit, mais elles débouchent sur une véritable critique de la justice en tant que telle, une justice au service des notables locaux et du pouvoir économique ou politique de manière générale. Ça, c'est vraiment impressionnant dans le livre.
Pour bien comprendre, hein, Franck Véron, l'affaire Scottsboro éclate en mars 1931. Ce recueil de gravures sublimes date de 1935, c'est-à-dire que c'est concomitant et c'est fait à Seattle, je crois, par deux artistes qu'on connaît pas en fait. C'est signé Tony Perez et Lynn Sheehan, mais on ne sait pas qui sont ces deux types, c'est incroyable.
Ouais, alors deux choses qui est effectivement important, c'est que c'est un travail militant dans le contexte de l'affaire toujours en cours, ils sont toujours d'une part en prison et les procès sont de nouveaux procès sont en cours. Pour ce qui est des auteurs, effectivement, les collègues américains, alors l'ouvrage a été retrouvé fin des années 1990 dans ses archives, publié en 2002 aux États-Unis. Lors de cette publication, les éditeurs ont évidemment cherché à retrouver les auteurs. Ils n'ont rien réussi à identifier. En revanche, effectivement, on sait que cette édition a été faite à Seattle, puisque la page de titre, pourrait-on dire, de la maquette retrouvée à New York, indique exemplaire numéro 2 réalisé à Seattle en 1935.
Alors aujourd'hui, hein, Franck Véron, cette affaire Scottsboro n'est pas très connue en France. Je me suis amusé à taper sur Wikipédia Scottsboro Boy. Il y a une page, juste une page Wikipédia. Sur Wikipédia américain, c'est plusieurs dizaines de pages. Ce qui donne aussi le poids hein, de cette histoire dans l'histoire américaine de mémoire collective et l'histoire judiciaire, et puis dans l'abolition de la ségrégation, finalement.
The Scottsboro Boy, la nouvelle comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, nominée aux Tony Awards, on la découvre ce matin en longueur sur la 42e rue de France Musique. Il y aura plusieurs procès pour ceux qu'on appellera les Scottsboro Boys. Les événements vont s'enchaîner et comme dans des affaires plus récentes, voilà que l'un des condamnés à mort obtient de rencontrer le gouverneur de l'Alabama qui peut le gracier à condition qu'il plaide coupable, le fameux plaidé coupable, qu'il avoue un viol qu'il n'a pas fait. Malgré l'assistance de son avocat, il refuse par honneur. La chanson s'intitule « You can't do me, vous ne pourrez pas m'avoir ». C'est Brandon Victor Dixon qui interprète Haywood Patterson. Il y a des tonalités à la Chicago.
You can't do me like you done me. Like you did me before.
Mais ce qui est assez troublant, c'est que ces neuf garçons qui sont très connus aux États-Unis comme groupe ont un peu disparu de la circulation une fois l'affaire résolue. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Ils ont un peu disparu dans la nature. C'est assez curieux quand même, non ?
Tout ça s'est terminé finalement, d'un point de vue purement judiciaire, par des sortes de négociations, en fait, qui ont permis à certains d'entre eux d'être condamnés à des peines plus minimes, ce qui était malgré tout une vraie avancée, notamment pour l'un d'entre eux qui finit par être toujours accusé d'avoir violé une femme blanche, mais d'être condamné seulement, entre guillemets, à 75 ans de prison. Ce qui est une vraie nouveauté pour un noir étant accusé d'avoir violé une femme blanche aux États-Unis.
À l'époque, c'était peine de mort directe.
Oui.
Mmh. Donc là, c'est une petite tolérance, finalement.
Mmh. Oui, on peut dire ça comme ça. Cela dit, effectivement, ils ont souffert tous de longues années de prison, puisqu'ils ressortent pour ceux qui restent le moins longtemps à la fin des années 30. Leurs histoires sont compliquées parce que souvent ils ressortent de prison et puis sont de nouveau mis en prison, notamment pour violation de l'interdiction de sortir de l'état d'Alabama, des peines assez mineures mais qui les reconduisent de nouveau en prison. Sans entrer dans le détail des itinéraires ultérieurs de chacun d'entre eux, il est évident que cette histoire les a complètement brisés. La prison les a brisés, peut-être aussi d'une certaine manière la publicité faite à leur affaire qui les a sauvés, certes, les a aussi condamnés d'une autre manière. Pour une partie d'entre eux, effectivement, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ce qui paraît évident, c'est qu'ils ont cherché à se construire une nouvelle vie le plus anonymement possible dans d'autres états ou d'autres villes. Et pour ceux dont on a pu suivre la trace, ce sont plutôt des parcours tragiques.
Et chaotiques.
Chaotiques et tragiques. Pour l'un d'entre eux, par exemple, il finit en 1959 par tuer sa femme qu'il accusait d'adultère et se suicider lui-même. Haywood Patterson, qui est peut-être la figure la plus connue parce qu'il a publié son autobiographie, en 1950, qui s'appelle Scottsboro Boy, qui est malheureusement pas traduite en français. Heywood Patterson a fini par s'évader de prison, s'est réfugié dans le Michigan, à Détroit. L'État d'Alabama a demandé son extradition depuis le Michigan. L'affaire était telle que les autorités locales ont refusé cette extradition. Il s'est retrouvé mêlé à une histoire de violence. Enfin, il a été condamné pour homicide involontaire et il est mort en 1952 en prison. Voilà un exemple de...
Et pour la moitié d'entre eux, en effet, on a perdu leurs traces. Et qu'on ne sait pas quand ils sont morts. Ils ont changé d'identité, peut-être, pour avoir une vie plus simple. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu leurs traces. Le dernier, Clarence Norris, est mort en 1989. Mmh. Et pour terminer, Franck Véron, j'aimerais citer un extrait de l'oraison funèbre du révérend lors de ses obsèques. L'église est presque vide. En 1989, aux obsèques de Clarence Norris, donc dernier survivant des garçons de Scottsboro. Et voilà ce que dit le révérend Kelvin Butt. Cette église devrait être pleine. Mais maintenant que les lumières initiales de l'affaire de Scottsboro sont éteintes et que ses couleurs ont été ternies par les 50 années passées, qui s'en souvient encore ? Cette église devrait être pleine si seulement on pensait à établir entre l'affaire de Scottsboro et les injustices dont nous sommes encore aujourd'hui les témoins. Je cite cet extrait du révérend parce que aujourd'hui, cet éloge funèbre, il a une résonance, il a un écho. C'est que régulièrement, ça revient, ces histoires, que les flics blancs tirent sur des jeunes noirs. C'est jamais l'inverse. C'est toujours la même chose. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès depuis 70 ans aux États-Unis, mais néanmoins, cet éloge funèbre en 1989 du révérend a un écho aujourd'hui.
Je suis absolument d'accord. Je ne vois pas quoi rajouter à cette très belle analyse. Effectivement, c'est frappant de voir comment, d'une certaine manière, avec certaines nuances, l'histoire continue à se répéter. Oui, effectivement.
En tous les cas, j'encourage tous nos auditeurs à se précipiter sur ce merveilleux ouvrage Scottsboro, Alabama, de l'esclavage à la révolution, donc qui reprend ce document de gravure sublime des années 30, fait à Seattle par deux artistes un peu méconnus, mais en écho à cette affaire de Scottsboro, un livre dont vous avez signé la postface et la traduction, Franck Véron, c'est aux éditions de L'Échappée, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Minute historique à Washington, où le président Johnson a paraffé la loi sur les droits civiques adoptée la veille par la Chambre des représentants. Désormais, sur tout le territoire de l'Union, au drugstore comme au collège, au restaurant comme à la piscine, la discrimination raciale est illégale. L'application de la loi n'ira certainement pas sans difficulté dans les États du Sud. Une épreuve que le monde, comme l'Amérique, va suivre avec passion.
Une épreuve, oui, et c'est pas encore gagné. 50 ans plus tard, l'anaphore de Martin Luther King résonne toujours. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Alors merci à notre réal Marco Mutel, assisté aujourd'hui de Kevin Pelot.
Et puis, Modu, il ne faut pas oublier Joy Raffin.
Joy Raffin, la voix narrative de cette émission.
Merci beaucoup, Joy, à la semaine prochaine.
Bye, folks, and see you next week.
Et merci à vous tous. Et dans quelques instants, c'est avec Eric et Quentin que vous avez rendez-vous pour 40 ans de rap français au menu du jour, de Sugar Hill Gang au mouvement hip-hop.